Alors, quelle âme belle qu'il faut donner? Dites-le à la personne à côté de vous. Il. Allez-y. Il est ressuscité. Regardez la personne. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'était la nouvelle qu'il fallait faire entendre. Alors, que veut dire pour nous? Il est ressuscité. 175 fois, rien que dans le Nouveau Testament, on trouve l'enseignement de cette doctrine de sa mort et sa résurrection. 175 fois. Alors, vous pouvez prendre un dictionnaire biblique, vous pouvez prendre une concordance biblique. Moi, j'ai une concordance dans laquelle il y a tous les mots de la Bible. Donc, si moi je veux voir combien de fois y a-t-il la mention de quelque chose, mais j'ouvre ma concordance et je compte. Alors, c'est facile parce que des fois, rien que la liste, donc une colonne fait 50 de mentions, donc s'il y a 4-5 colonnes, je ne dis pas 4, c'est fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de regarder les versets dans lesquels sont impliqués les différentes doctrines et vérités qui gouvernent la vie. 175 fois, rien que dans le Nouveau Testament mentionné la doctrine de Satan et sa réflexion. Mais avant cela, en Job, chapitre 19, verset 23, nous voyons la certitude avec laquelle Job déclare par la foi que même s'il arrivait à mourir, même s'il arrivait à perdre la vie, il avait une certitude qu'il déclare avec force. Job 19, verset 23, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant.
Amen.
Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Ça, c'est Job. Aujourd'hui, la Bible dit que nous avons une espérance vivante. Alléluia. Quelle est cette espérance? De voir Jésus face à face. Et vous savez, pour que Jésus ressuscite, il avait rendez-vous avec la mort. Et là, on a lu tout à l'heure, dans l'évangile de Luc, le récit du moment dans lequel il a rendu son esprit. S'il avait ressuscité, il avait rendez-vous avec la mort. Lui qui ne méritait pas la mort. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, tout genou fléchisse. Pourquoi? Parce qu'il a pris la forme d'un homme. Il est devenu semblable à nous. Il a été obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Je ne vais pas trop insister sur sa mort aujourd'hui. Mais il fallait passer par la mort pour arriver à la résurrection. Il fallait que nous aussi, on meure au péché pour qu'un jour, on puisse aussi ressusciter avec Christ. Mais en même temps, nous sommes déjà ressuscités en nouveauté de vie. Amen. Est-ce que vous vivez la nouveauté de vie à laquelle Dieu nous a invités? Est-ce que c'est quelque chose de réel en vous? Je vais lire quand même le récit trouvé dans les évangiles. Matthieu chapitre 28, 1 à 7. Matthieu chapitre 28, 1 à 7. Je crois que c'est important qu'on lise ce récit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement des terres, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Marc, chapitre 16, et verset 1. C'est important de lire ceci. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de bon matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui ouvrira la pierre loin de notre sépulcre? Et les bons cieux, ils aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, puis un jeune homme assis à droite, vêtu d'une longue blanche. Et tout épouvanté, ils leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples, et à Pierre, qui vous précède en Galilée. Luc chapitre 24, verset 1 au verset 7. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin. Pourtant, les aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Étant entrés, ils ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme ils ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis d'effrayant, ils baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Jean chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme elle faisait encore obscur, et puis que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et ils ont dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. C'est tombé si, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Verset 11, cependant Marie se tenait dehors, près du sépulcre. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Elle lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna. Il lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, premièrement, que je suis ressuscité, certainement, et que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. La résurrection de Jésus. Que veut dire cela pour nous? Matthieu 16, 21 nous dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrirait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il serait mis à mort, et qu'il ressusciterait le troisième jour. Jésus en avait parlé de sa mort et de sa résurrection. Est-ce que les disciples avaient bien compris? Certainement pas. Ils se sont suivis après. Mais Jésus annonçait qu'il était venu pour mourir. Jésus est venu annoncer qu'il était ce grain de blé qui devait tomber par terre, qui devait être écrasé et qui un jour porterait le fruit. Jésus avait annoncé qu'il était venu pour racheter, pour sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Savez-vous que 20% des évangiles aujourd'hui sont dédiés à cet enseignement vital de la foi chrétienne? 20% des évangiles aujourd'hui s'agissent de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dites-moi si ce n'est pas important. Vous savez, 1 Corinthiens 15, verset 14, vous dit que sans cette réalité, notre foi est vaine. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, je vous invite à le faire. Lisez-le, je vais le mettre sous quelques versets. Mais lisez 1 Corinthiens 15, verset 1 jusqu'au verset 25. Et vous verrez l'importance de la résurrection de Jésus. Et vous savez, sans cette réalité, notre foi est vaine. Sans cette réalité, la Bible dit, nous sommes des faux témoins. Sans cette réalité, nous n'avons plus d'espérance. Sans cette réalité, nous ne verrons plus jamais les morts qui nous ont précédés en Christ. C'est ça l'espérance que nous avons. Et sans cette réalité, notre espoir n'aura jamais été éternel. Car au verset 20, il dit, si nous espérons que dans cette vie, nous sommes les plus malheureux, les êtres humains. Nous espérons dans cette vie, mais nous espérons aussi à la vie éternelle. Et pourtant, la vie éternelle, la Bible dit en Jean chapitre 17 et verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Connaître Dieu, Jésus-Christ, et Jésus-Christ aujourd'hui, c'est déjà vivre la vie éternelle. Mais bien sûr, nous anticipons la vie éternelle avec lui, et nous serons avec lui pour toute l'éternité. Que le passage que nous lisons souvent aux enterrements des chrétiens, nous lisons en Thessaloniciens chapitre 4, verset 12 au verset 18. Et il nous dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Quelles sont les paroles? Les paroles nous disent que ceux qui meurent, le Seigneur, ils dorment. Nous pleurons. Nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Quand mes parents sont décédés, j'ai pleuré. Et j'en pleure encore, 30 ans après, 28 ans après. Mais je ne pleure pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. J'ai une espérance. Je sais qu'un jour, je verrai Jésus, mais un jour aussi, je verrai mes parents. Alors, comment est-ce que nous savons dans l'au-delà? Comment est-ce que nous savons dans l'éternité? Bon, la Bible ne dit pas grand-chose par rapport à ce que nous avons consommé, mais la Bible dit que nous savons tel qu'il est. La Bible dit que nous le verrons et que nous allons le voir et nous allons comprendre. Et je crois qu'on va se reconnaître au ciel. Je crois qu'il y aura l'occasion de pouvoir retrouver ceux qui nous ont précédés. Ça ne sera plus les mêmes relations, ça ne sera plus donc la même affinité, c'est différent. Parce que celui qui va nous attirer le plus, c'est Jésus, c'est sa présence, c'est sa lumière. Mais la réalité de sa résurrection, on ne peut pas la contourner. En Actes chapitre 17, verset 18, Paul se promène à Athènes. Athènes, c'est un lieu de philosophie, c'est un lieu des grands sages. Et si vous lisez ce chapitre, je vous invite à le faire aussi, mais j'aimerais vous concentrer sur le verset 18. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens s'est mis à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours-là? D'autres l'entendront annoncer Jésus et la résurrection. Disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voulions donc savoir ce que cela peut être. Pourquoi avait-il besoin du Saint-Esprit des disciples? Pourquoi fallait-il que la puissance du Saint-Esprit survienne sur eux, afin qu'ils soient des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Pourquoi? Parce qu'il fallait annoncer que Jésus était mort et qu'il était ressuscité. Et là, ça c'était quelque chose de nouveau. Parce que vous savez, il y a les fondateurs des grandes religions dans le monde entier. Il y a les fondateurs des grandes religions depuis des siècles. Ils sont tous morts. Ils attendent la résurrection. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité.
Amen.
Même Marie, la mère de Jésus, attend la résurrection. Ne soyez pas séduits par l'idée que le 15 août, on célèbre le fait que Marie soit montée au ciel. Marie a été une femme honorée parmi toutes, la Bible le dit. Nous nions pas le fait qu'elle a été un instrument et un vase, mais elle attend la résurrection. Jésus est le seul qui est mort et qui est ressuscité et qui a offert sa vie en rançon pour nous. Et même ici, ils étaient gênés. Ah, Jésus a la résurrection. Alors, attends. Il annonce des divinités étrangères. Qu'est-ce qui se passe? Donc parlez-nous de cette nouvelle doctrine que vous enseignez. Le verset 31. Dieu, verset 30, ils sont tenus compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aillent à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par qui? Par l'homme qu'il a désigné. Selon qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qui était l'homme désigné? Jésus. Et il fallait qu'il soit ressuscité pour que le jugement de Dieu soit réalisé. Alors, quels sont les trois points de l'évangile? Selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 verset 4, il y a trois points principaux. Le premier point, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Deuxièmement, Christ a été enseveli. Et troisièmement, Christ est ressuscité selon les Écritures. Alors pourquoi c'est si important pour nous? Regardez avec moi en Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Parce que il est mort. Et si nous voulons vivre, il faut que nous mourions. Il faut que nous mourions pour vivre avec Christ. Il a été enseveli, c'est la parole du baptême. Vous savez, le baptême d'eau. J'explique à ceux qui vont prendre le baptême. Alors vous allez rentrer dans la pilette, voilà, dans l'eau. Hein? À un moment donné, vous allez rentrer dans l'eau. Vous allez vous submerger. Pardon, immerger dans l'eau. Ensuite, vous allez être submergé complètement. Ça dure du quelques secondes, hein? Il ne faut pas. Vous savez, on dit toujours à la personne, c'est vous qui gérez votre nez. Hein? C'est pas nous, hein? C'est vous qui gérez votre nez. Alors, vous êtes mis dans l'eau, et tout de suite vous ressortez, vous émergez, et c'est le symbole de la nouveauté de vie à laquelle Dieu vous a déjà invité à participer. Rappelez-vous, si quelqu'un montre pécheur sec, il sort pécheur mouillé, hein, c'est pas l'eau qui va purifier ses péchés. C'est le symbole. La Bible dit que c'est le symbole de la purification des anciens péchés. Mais si nous avons été ensevelis avec lui, il y a une signification. Et heureusement, on émerge symbole de cette nouveauté de vie à laquelle nous invite à participer. Romains chapitre 6, qu'est-ce que nous donc demeurons-nous dans le péché avant que la grâce de Dieu abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Comment allons-nous persister et persévérer dans le péché si nous nous disons morts au péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que donc, le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Pour si nous sommes morts avec Christ, nous pouvons être vivants aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qui vit. Ainsi, aujourd'hui, regardons-nous comme morts au péché et vivons pour Dieu. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés. Christ a été enseveli. Et Christ est ressuscité. Qu'est-ce que cela garantit, sa résurrection dans Dieu? Cela garantit notre résurrection future. Un jour, nous allons ressusciter. La Bible dit que ceux qui nous ont précédés vont ressusciter là-bas. Moi, j'ai dit aux frères et sœurs, ça serait intéressant qu'on soit à côté du cimetière le jour que Jésus reviendra. Et que tout d'un coup, on voit des personnes qui vont en devant. Alors, on le verra, on dirait, mais c'est pas nous maintenant. Et ceux qui vont ressusciter d'abord. Vous savez, si vous allez donc dans les grands cimetières qui existent aujourd'hui, il y a toujours des différents carrés. Il y a le carré de tel peuple, le carré de telle nationalité. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est parfois me promener et voir des tombeaux sur lesquels il y a des versets. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est en cas. Fixons le regard sur Jésus, le chef et consommateur de notre foi. Je me rappelle une fois, on était à Montpellier, dans une église assemblée des dieux, en 1989, et le pasteur a prêché ce jour-là sur le verset qui dit que nous devons témoigner, nous devons ouvrir la bouche et ne pas permettre que les pierres crient et que les pierres déclarent quoi que ce soit. Car si nous nous taisons, les pierres vont le déclarer. Et il nous a montré des photos. Je n'ai jamais été donc au musée du désert, je n'ai jamais été donc dans le Sénat. J'aimerais bien un jour me rendre là-bas et visiter la terre où les gibelins donc sont enterrés. Mais il dit que vous rentrez dans le cimetière et vous voyez des témoignages extraordinaires écrits sous les grands morceaux de pierre, il y a des versets, il y a une certitude. Et il disait, si nous nous taisons, les gens seront obligés d'aller visiter le musée, visiter le cimetière, pour être conscients que Jésus est vivant aujourd'hui. Alors les médias, ils nous lançaient un défi, ils disaient, ne laissons pas que les pierres crient. Mais la garantie de notre résurrection future, Jésus est les prémices, la Bible dit, en 1 Corinthiens 15-20, c'est-à-dire, c'est les premiers fruits, c'est un avant-goût, c'est un regard vers ce qui viendra, et la rousse, les prémices, c'est les premières manifestations de quelque chose d'important. Quel est ce quelque chose d'important? Que nous allons ressusciter aussi. Il était les premières prémices. Nous serons semblables à lui. La Bible dit en Jean chapitre 3, verset 2, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Nous sommes ses enfants. Et ensuite, il dit que nous avons à attendre ce jour que nous le verrons face à face. Voyez que l'amour du Père nous a manifesté. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous savons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est la garantie de notre résurrection future. Qui parmi nous ce matin, vous voulez ressusciter un jour? Alléluia!
Gloire à Dieu!
Alléluia, parce qu'il va falloir déjà, premièrement, passer par la mort. La mort à soi, la mort à la chair. La Bible dit que nous sommes très vivants pour le monde. Nous qui étions morts dans nos péchés envers Dieu, aujourd'hui, il nous a ressuscités ensemble, Éphésiens chapitre 2. Nous allons ressusciter un jour, être avec lui pour toujours, nous sommes semblables à lui. Et en Colossiens 3, verset 1, il dit quand Christ en demi paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous sommes cachés déjà en lui. Nous sommes déjà en Christ. Mais le jour viendra quand il paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Sa résurrection nous garantit qu'un jour nous allons ressusciter. Et alors ça va être différent. Plus de lunettes, plus de jambes boiteuses, plus de souffrance, plus de fatigue. Alors les gens se disent oui, mais j'imagine qu'on sera assis sur des petits nuages. En jouant là, et le vigorant, etc. Bon, si nous voyons les apologies, peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup plus que nous allons, dans lesquels nous allons être engagés. Mais le jour viendra quand nous allons connaître la vie éternelle et la vie réelle en lui. Deuxièmement, c'est la garantie qu'il y a un jugement à venir. La justice de Dieu prévaudra. Des fois, nous disons, mais c'est pas juste. Des fois nous disons, mais regarde le monde. Des fois nous disons, mais pourquoi ces choses? Pourquoi ces tragédies? Pourquoi ces attaques? Pourquoi ces attentats? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les enfants malades? Etc. etc. Et nous disons, rien n'est juste. La justice de Dieu prévaudra. En tout temps, la réponse que nous avons, c'est Dieu montre son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort. Et quand les gens disent, non, si Dieu est amour, pourquoi ceci et pourquoi cela? Tout simplement, il a montré son amour. Il a donné sa vie pour nous. Il a offert sa vie pour nous. Et c'est la preuve de son amour. Et c'est tout ce qu'il fait. Mais un jour, la justice de Dieu prévaudra. Il a dit qu'il a désigné un homme, Jésus, par lequel le jugement viendrait. Et c'est pour cela qu'il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Aussi, cela garantit la puissance en nous pour vivre la vie de Dieu. Sa résurrection garantit la puissance qui est en nous pour vivre la vie chrétienne. Romains chapitre 8 et verset 11. Si l'esprit, c'est un verset vraiment qui est frappant. Hein. Bon, mémorisez Romains chapitre 8, c'est 32 versets, vous savez, c'est excellent. Hein, Romains chapitre 8. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Un jour, nous allons être rendus à la vie. Et nous serons avec lui. Et jusqu'alors, le juste vivra par la foi. Continuons à vivre. Continuons à vivre. Mais accrochons-nous au fait que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. La force, la puissance pour vivre la vie chrétienne. Bien que nous ne sommes pas sans péché dans cette vie, nous ne sommes pas sans péché, nous sommes défiés à moins péché. Pas par notre capacité, mais par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. C'est cela qui va nous faire renoncer. C'est cela qui va nous faire rejeter les tentations. faire face et dire la puissance de Christ en moi me donne la capacité en lui de m'empêcher de purifier mon cœur, mon corps, mon âme, les choses qui contaminent, les choses qui viennent me souiller. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 7, ayant des telles promesses, purifie-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Oui, l'esprit peut être contaminé. Oui, notre âme peut être contaminée. Oui, notre corps peut être contaminé. Purifions-nous de toute souillure et achevons notre sanctification. Car c'est ça la voie des disciples. C'est ça la voie de racheter. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec lui. Je suis crucifié avec lui. Et la vie que je mène maintenant, ce n'est pas ma propre vie. Je la vis en lui. Je la vis en lui. Jean chapitre 11 et verset 25, Jésus lui dit à qui ? À Marthe et Marie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Et quiconque vous croit en moi ne mourra jamais. Et il lui pose la question. Crois-tu ça? Et c'est là où Marie dit, oui, je sais que dans les derniers jours, il va ressusciter, etc., etc. Mais Jésus voulait lui faire comprendre que la clé de la vie éternelle était en lui. Que la clé de la vie était en lui. Alors pourquoi est-ce que nous devons répondre à cette bonne nouvelle? Pourquoi est-ce que nous devons dire à toutes les personnes que nous rencontrons, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité? Dis à la personne à côté de toi, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. On te l'a dit, on est bien? Non, personne ne te l'a dit. Donc, on est bien. Il est ressuscité. Pourquoi donc c'est une bonne nouvelle? Car selon Romains chapitre 4, verset 5, il a été ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 5 et verset 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alors, il a été ressuscité pour notre justification. Vous savez, nos archives du passé sont effacées à jamais. Quelqu'un venait devant Dieu et lui disait, tu sais, ça fait à peine une semaine que je me suis converti, que j'ai donné mon cœur, et le diable vient me rappeler de toutes mes choses du passé, il m'harcèle, il ne me laisse pas tranquille. Alors Dieu, est-ce que tu as pardonné tous mes péchés, quand j'ai entendu la promesse, j'ai entendu les personnes qui m'ont parlé, qui ont prié pour moi, que tu aies passé mes péchés à jamais. Est-ce que tu l'as fait, Dieu? Est-ce que tu l'as fait? Et Dieu lui dit, tu sais, je l'ai fait, mais je ne me rappelle plus ce que j'ai pardonné, ce que j'ai passé. Vous savez, le diable aimerait nous harceler, nous dire, ça va revenir, hein, t'inquiète pas, attends-toi, la tentation viendra. Vous savez, j'aimerais le dire et le redire, le fait que nous soyons tentés ne veut pas dire qu'on a péché. Le fait qu'on soit tenté veut dire tout simplement qu'on est vivant, qu'on a des yeux, qu'on a des oreilles, qu'on a des sensations, qu'on a, voilà, qu'on est conscient du monde dans lequel nous sommes, mais ça ne veut pas dire qu'on a péché. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses cachées en nous, inimaginables. Je me rappelle un jour, un homme m'a raconté quelque chose, mais en pleurs. Il m'a dit, tu sais, je suis parti dans un camp de délivrance. Voilà, camp de délivrance. Et il m'a dit, je voyais que tout le monde passait un par un dans une pièce à côté, pendant que les autres louaient le Seigneur. Des fois, je les voyais sortir en pleurs, des fois, je les voyais sortir dans la confusion. Mais le moment est venu quand je devais rentrer aussi. Et il a dit qu'il est rentré dans cette pièce, et il y avait un couple, le pasteur et sa femme. Et la femme, soi-disant, elle avait des révélations par rapport au péché qui était dans sa vie. Et c'est le mari qui chassait les péchés. Et il m'a dit, mais ils m'ont accusé des choses innommables. Innommables. Je n'en ai jamais imaginé. Ça n'avait jamais traversé l'esprit. Et je suis sorti de là, mais avec un poids de condamnation. Et en me posant la question, mais oui, peut-être en nous tous, il y aurait le potentiel pour commettre toutes sortes de péchés. Pourquoi? Parce que nous sommes humains. Mais ce n'était pas à un homme de Dieu, entre guillemets, de dire à la personne, ah, mais même si tu ne te rappelles pas, mais quand tu avais un an, quand tu avais 6 mois, etc., donc il a eu ces choses, quand tu avais 3 ans, 4 ans, tu as vu quelque chose à la télé, et alors la esprit est rentré en toi, etc. Mais il a dit qu'il a été cassé. Il me racontait ça 6 ans après, et en pleurs et en sanglots. Moi, je vais vous dire, la conviction du péché du Saint-Esprit nous attire à la repentance. La condamnation du Satan nous éloigne. Mais l'enseignement et les mensonges du diable qui viennent pour essayer de nous faire penser que nous sommes capables de faire des choses innommables, non. La tentation, c'est la tentation. Jésus a été tenté dans tous les domaines, la Bible dit, sans commettre du péché. Dans tous les domaines que vous pouvez imaginer, Jésus a été tenté. Hébreux chapitre 4 et verset 15 et 16. C'est pour ça que nous avons souvent un sacrificateur aujourd'hui. Et nous approchons du trône de la grâce afin de nous secourir dans nos besoins. Car il peut s'identifier à tous nos besoins. Alors, il a été ressuscité pour notre justification. Je suis justifié en lui. Et j'aime beaucoup ce mot justifié en anglais. Justified. Just as if I never sinned. Juste comme si je n'avais jamais commis un seul péché. Comparer devant Dieu avec un cœur blanc, transformé, purifié. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me jette pas loin de ton esprit. C'était la prière de David dans le psaume 51. Il a été ressuscité pour notre justification. Aussi, car selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14, par sa résurrection, nous sommes unis avec lui. Nous sommes en Christ. Il fallait qu'il ressuscite pour que nous soyons rapprochés. La Bible dit que Dieu, de deux, n'en a fait qu'un. Il y avait les païens et les non-païens. Il y avait les juifs convertis et les non-juifs convertis. Et là, en Éphésiens, l'apôtre Paul, il va dire, Dieu nous a appelés à être un. Nous sommes unis par sa résurrection. Nous sommes la famille de Dieu duquel tire son nom. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom. Aussi, pourquoi donc cette bonne nouvelle? Car selon Esaïe 53, 10 à 12, en ressuscitant Christ entre les morts, il confirme la véracité des Écritures. Vous connaissez ce passage, on le dit souvent le monde de Saint-Saëns, on va le lire. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, et vers une postérité, et pendant un séjour, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, entre parenthèses, on comprend s'il va avoir sa postérité, il est ressuscité entre temps, et l'ordre de l'éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Où est Jésus aujourd'hui? Il se tient à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Il a fallu qu'il ressuscite pour être à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Pourquoi donc cette bonne nouvelle? Car selon Romains chapitre 1, verset 4, cela prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, c'est cela mon question. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Romains 1 et verset 4. Verset 3, en ce qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est une bonne nouvelle. Tu veux prouver que Jésus est le Fils de Dieu? Parle de sa résurrection. Aussi, selon Actes, chapitre 2, 32, au verset 33. Parce qu'il est ressuscité, cela permet que son Saint-Esprit soit déversé sur nous. Alléluia. Il faut que je m'en aille. Déjà, en Jean, chapitre 15, 16, il leur dit, le Saint-Esprit viendra, le Consolateur viendra, il va vous apprendre toutes les vérités. Il y a des choses que j'aimerais vous dire maintenant, mais vous n'avez pas la maturité pour le comprendre. Mais quand il viendra, il vous révélera toute la vérité. Mais il faut que moi je m'en aille. Il fallait qu'il meurt, qu'il ressuscite, qu'il monte à la droite du Père pour que le Saint-Esprit descende le jour de la Pentecôte et l'Église de Jésus-Christ voit le jour. Et pourquoi la bonne nouvelle? Parce que nous avons une espérance vivante. Nous avons une espérance vivante en Christ. Est-ce que vous vivez cette espérance? 1 Pierre chapitre 1, verset 3, et je vais terminer. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut s'y perdre entre ni souiller ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux. À vous qui par la puissance des dieux êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Comment? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ce message de sa résurrection est une garantie. Vous savez que l'une des preuves les plus importantes de la résurrection de Jésus, le fait que l'Église existe, tout simplement. Ah, on peut parler de, voilà, vous savez, donc, la toile, le suaire. On peut parler de plein d'autres choses. On peut parler de la pierre donc, qui avait été roulée. Mais alors, les portes de l'enfer ne pourront point contre l'Église. L'Église est la preuve de sa résurrection. Et si nous sommes aujourd'hui à l'écoute de sa voix, si nous sommes aujourd'hui sous son regard, c'est parce qu'il a ressuscité. Seigneur, je te demande que ce matin, Seigneur, que le cœur retentisse avec un message de vie. Un message de vie, Seigneur. Nous devons voir plus de personnes venir au milieu de nous qui ne te connaissent pas, avec une soif de te connaître, parce qu'ils ont vu, ils ont vu, pardon, et entendu parler du Christ vivant dans la vie de chaque membre du corps. Je te demande, Seigneur, vraiment que ce matin, nous soyons saisis, interpellés par ce message de résurrection. Il est ressuscité, ça que les anges ont dit. Et Jésus s'est révélé à Marie et elle a compris que c'était lui qui lui parlait. Il était ressuscité. C'est aide-nous, Seigneur, à saisir la signification de ta résurrection. Aide-nous, Seigneur, à, selon ta parole, expliquer aux autres pourquoi cette bonne nouvelle est si importante. Nous sommes justifiés en toi. Nous avons une nouvelle espérance vivante en toi, qui ne meurt jamais, duquel on ne peut pas déchoir. Cette fermeté, cette conviction dans notre cœur. Merci, merci. Car aujourd'hui, nous sommes le fruit de ta résurrection. Nous sommes le fruit, Seigneur, de ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, à tout faire pour étendre cette bonne nouvelle. Aide-nous à tout faire pour annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Et que ton nom soit élevé et glorifié.